Gilles Farcel, bonjour.
Bonjour.
On est là pour parler essentiellement du nouveau livre que vous venez de sortir il y a un mois à peu près, « Une boussole dans le brouillard », écrit aux éditions du Relier. Une première question de l'ordre pratique, j'aurais souhaité savoir à quoi correspondait l'utilisation des italiques dans votre dernier livre.
Ce sont des passages sur lesquels je veux insister en fait.
Okay.
C'est des passages qui me paraissent un peu synthétiques, particulièrement important, donc c'est une manière de les souligner, en fait.
Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La volonté d'être libéré vivant implique que nous soyons prisonniers de quelque chose, ou d'une entité. On retrouve peut-être cet équivalent chez Gurdjieff, dont on va parler plus tard. Il parlait notamment de l'organe Kundabuffer, ou même de Carlos Castaneda, si vous le connaissez, qui parlait du flyer qui est en nous. Dans un premier temps, donc peut-être prisonnier de quelque chose.
Bah, c'est simplement là aussi, je serais très concret et très pratique, enfin, en tout cas je l'espère. Prisonnier de quoi ? Prisonnier de ce que Gurdjieff appelle très bien la mécanicité. Swami Prajnapad, pas de le maître d'Arnaud Desjardins, utilisait aussi souvent ce terme. Prisonnier de tous les conditionnements, de mon passé, de mes opinions, de tous les réflexes émotionnels complètement automatiques. Bon, Gurdjieff a cette affirmation qui est pas facile à accepter au départ, qui est que l'être humain ordinaire est une machine, et que l'être humain ordinaire considère qu'il agit, qu'il choisit, qu'il décide, etc., mais qu'en fait il ne fait rien, que tout arrive, qu'il est comme une sorte de marionnette guidée par ses impulsions, ses mouvements émotionnels, lesquels sont déterminés par son passé, par ses conditionnements, etc. Cette vision de la mécanicité de l'homme va très loin, parce que c'est quelque chose qui rend compte de la présence du mal aussi dans le monde, dans le sens où on pourrait dire que tout ce qu'on pourrait qualifier de mal au sens de dommageable à soi-même, aux autres, à l'ensemble, à l'environnement, procède d'une mécanicité.
Vous évoquez la figure, plus loin dans votre livre, de tyran intérieur. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ?
Oui, le tyran intérieur, c'est...
Qui met en place une stratégie de survie ?
Oui, c'est tout ce complexe d'émotions, de pensées, au sens de fabrication, de faux, d'interprétation du réel, de réaction, c'est-à-dire d'action déterminée par l'émotion, qui en fait nous dicte notre comportement. Donc après, on peut voir ça très simplement. Chaque fois que vous ou moi ou n'importe qui... n'agissons pas librement, en pleine conscience, conscient de nos actes, conscient de leurs conséquences, très précisément conscient de ce que nous faisons et pourquoi. En fait, nous réagissons et nous posons des actes qui sont des réactions, et les conséquences de ces actes, ensuite, nous ne les assumons pas ou nous ne sommes pas d'accord avec elles. Voilà, par exemple, si un parent réagit très mal à un comportement de son enfant, il va lui hurler dessus ou quelque chose comme ça. Pour prendre un exemple vraiment très très simple et ordinaire, ben ensuite il va se rendre compte qu'il est allé trop loin, il ne va pas être d'accord avec les conséquences de ses actes, ben il a réagi, tout simplement. Oui. Il a été complètement pris, emporté par l'émotion. Alors ça paraît simple, en fait c'est toute une démarche déjà d'admettre, de voir, de reconnaître à quel point nous sommes prisonniers.
Est-ce qu'on retrouve cette idée au sein des textes sacrés, la Bible par exemple ?
De mon point de vue, c'est central, c'est-à-dire que aujourd'hui, notamment dans le christianisme, on a tendance à envisager les choses en termes de foi. Avez-vous la foi ? Croyez-vous à ceci ou à cela ? En fait, de mon point de vue, les textes sacrés, quels qu'ils soient, parlent de cette prison, parlent d'une condition humaine mécanique, non rédemptée, en quelque sorte, qui d'une certaine façon nous oblige à participer à la maladie du monde plutôt qu'à sa guérison. Et les textes sacrés parlent aussi de cette possibilité pour l'être humain de se libérer de cette emprise.
Alors, vous nous présentez dans votre livre en quelque sorte une échelle de la relation, de l'enfermement dans une bulle, peut-être à la compassion ou à ce qu'on appelle la communion, au sens chrétien du terme, qui pourrait être son stade ultime. Alors est-ce qu'on peut parler justement d'échelle, de degré ou de stade dans un but de maturation spirituelle ?
Oui, pour moi, il y a des stades, des degrés. Donc, il y a une maturation intérieure, une maturation humaine, spirituelle. On peut difficilement distinguer les deux. Bon, Swami Prajnapad disait « Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. » Donc ça, c'est, je dirais, le stade le plus élémentaire, le plus primaire. L'être humain vit dans son monde, c'est-à-dire qu'il est complètement identifié à et prisonnier de ses opinions, ses conditionnements, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc tout ce qui correspond à son monde lui est sympathique, c'est quelque chose qu'il peut accueillir, et tout ce qui ne correspond pas à son monde lui est en quelque sorte antipathique, il le juge et le rejette. Et à partir de là, aucune compréhension réelle, aucune compassion réelle, encore moins la communion, ne sont possibles. Bon, en fait, c'est ce à quoi nous sommes confrontés toute la journée. Si nous ouvrons le journal, écoutons la radio, ouvrons la télévision, ou simplement écoutons les conversations de notre voisin, chacun vit enfermé dans son monde avec des jugements de valeur, des opinions très arrêtées sur ce qui est le bien, sur ce qui est le mal, sur ce qui est juste, sur ce qui ne l'est pas. Et voilà, c'est la tour de Babel. Et la maturation à la fois humaine et spirituelle, c'est un processus, un travail par lequel il est possible peu à peu de se libérer de l'emprise de son monde. Pas forcément d'annihiler son monde, mais de ne plus être complètement conditionné, déterminé, limité par lui. Donc de pouvoir, à partir de là, commencer à comprendre au sens profond du terme l'autre, les autres, l'ensemble.
Alors, est-ce qu'on peut se libérer, à votre avis, du tyran ? En l'occurrence, le tyran intérieur, celui qui est mis en place donc très tôt dans une stratégie de survie, vous le disiez. Est-ce un objectif donc atteignable de son vivant ? Et comment cela peut-il se traduire au quotidien, le fait d'être finalement exempt ou débarrassé de ce tyran ?
Ben, c'est un objectif, selon moi, atteignable. Oui. Mais, ceci étant dit, c'est un objectif difficile, c'est un travail. C'est là aussi ce dont parlent les textes traditionnels. C'est une ascèse, pas forcément au sens habituel du terme de mortification ou privation particulière, mais c'est tout un travail. Il n'y a pas une formule, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une manière très immédiate de comprendre quelque chose et ensuite d'être libre, même si certains discours aujourd'hui tendent à soutenir cette proposition qui, bien sûr, bon, fait plaisir à beaucoup de gens, puisque tout le monde recherche une recette, quelque chose de facile, d'immédiat, de simpliste. Mais non, c'est un travail. Tous les mythes, toutes les histoires traditionnelles parle de l'épopée, du parcours héroïque de celui qui traverse différents dangers, différentes épreuves, pour pouvoir effectivement accéder à un trésor caché qui représente bien sûr un autre niveau de conscience. Donc je dirais oui, c'est atteignable. Après, est-ce que c'est facilement atteignable ? Non. Et comment est-ce que c'est atteignable ? On ne peut pas en parler. C'est atteignable par un processus de ce qu'on appelle traditionnellement, oui, une ascèse, encore une fois, pas au sens morbide du terme, mais on appelle ça aussi sadhana en Inde. Un processus qui, en général, se fait sous l'accompagnement d'un enseignant qualifié et dans le cadre aussi de ce que Gurdjieff appelle une école, ou bon, on peut appeler ça différemment, ça peut être une communauté, ça, de toute façon, un ensemble de moyens habiles, comme disent les bouddhistes. Et ces moyens habiles, on peut en parler un petit peu, éventuellement, décrire certaines choses dans des livres, mais à mon avis, ça reste très limité. C'est quelque chose qui ne peut être transmis que d'une certaine manière directement et expérimenté directement. C'est un petit peu toute proportion gardée, comme si on prétendait apprendre la chirurgie dans un livre. Il existe certainement des livres de chirurgie qui décrivent des procédures chirurgicales, mais nous réalisons tous facilement que le simple fait de lire et d'étudier ces livres ne va pas suffire à devenir un chirurgien, que pour ça, il est nécessaire de faire des études, d'expérimenter, de s'exercer sous la conduite de personnes qualifiées. Bon, bien sûr, c'est une image qui a ses limites.
Quelle est la différence peut-être entre un mystique, quelqu'un qui aurait un éveil peut-être spontané ou en tout cas une vision claire sur certains aspects de son propre conditionnement, et un maître authentique, par exemple, ou un enseignant?
Pour moi, après ce terme, j'ai consacré tout un chapitre dans ce dernier livre. Le terme « éveil » est aujourd'hui beaucoup, beaucoup employé. De plus en plus de personnes dans un certain circuit assez limité se disent, se proclament eux-mêmes éveillés, expliquent qu'ils ont atteint l'éveil, qui serait donc, l'accomplissement suprême, la redécouverte de notre nature véritable, à partir de laquelle tout deviendrait très clair, etc. L'accomplissement ultime de toutes les quêtes. Bon, en ce qui me concerne, je crois, enfin c'est ce que j'explique dans mon livre, que ce terme d'éveil est aujourd'hui utilisé de manière confuse et abusive. Qu'en fait, il y a une confusion entre une expérience qui peut arriver en elle-même à n'importe qui, sans préparation, qui peut être effectivement une expérience qu'on peut qualifier de mystique, éventuellement. Ça peut être aussi une expérience de psychose, hein, l'un n'étant pas loin de l'autre. Voilà, une expérience au cours de laquelle quelque chose de la nature ultime, de la réalité, semble se révéler, la conscience s'élargit, s'ouvre. Pourquoi pas ? Ces expériences existent, elles sont documentées depuis longtemps, elles font partie, je dirais, de la possibilité de l'humain. Après, en ce qui me concerne, d'après aussi tout ce que j'ai pu observer, puis surtout les échanges aussi que j'ai pu avoir avec des personnes que je considère comme très très qualifié, une expérience d'éveil, entre guillemets, si on appelle ça comme ça, ne doit pas être confondue avec ce que traditionnellement on appelle la libération ou l'accès, disons, à une maturation spirituelle profonde. Une expérience d'éveil, c'est une expérience qui peut être bouleversante, qui peut peut-être changer, même d'une certaine manière à jamais, notre regard sur nous-mêmes, sur la réalité, mais ça n'est pas pour ça que nos circuits intérieurs, pour ainsi dire, nos habitudes, nos conditionnements, c'est pas pour ça que tout ça est changé, qu'il y a une réelle maturation. Et on le voit bien quand on voit justement toutes les difficultés qui surgissent souvent, malheureusement, autour de pas mal d'enseignants qui s'autoproclament, parce qu'en général ils sont toujours autoproclamés éveillés, ou très souvent, et dont le comportement à un moment donné apparaît, pas toujours, mais malheureusement souvent, pas toujours juste, ou voire carrément non juste pour les autres. Je crois encore une fois qu'il s'agit de ne pas confondre une expérience, qui comme toute expérience est momentanée, même si elle est très forte, et ce qui est le fruit d'une longue maturation. Swami Prajnapad est très clair là-dessus aussi, en disant qu'il ne peut pas y avoir d'éveil soudain. De toute façon, ce qui est soudain, en fait, est préparé de très très longue date, même si la préparation n'est pas forcément visible. À un moment donné, effectivement, quelque chose peut se passer, survenir, on a l'impression que c'est soudain, mais en fait, c'est préparé de très longue date. Et puis la question, c'est, même s'il y a une expérience, même si quelque chose de l'ordre d'une ouverture survient, dans quelle mesure cette ouverture va-t-elle être intégrée ? Dans quelle mesure va-t-elle, si on peut dire, se maintenir et surtout atteindre toutes les zones de notre psychisme, de notre corps, de notre perception. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui autour de ces thèmes.
Très bien. Vous évoquez donc la possibilité en cette vie d'une cristallisation de l'intention. Donc, à un autre moment du livre, vous parlez de réunification des énergies dans une même direction. Mmh. Et également de la modification de nos circuits internes. Alors tout cela nécessite un travail sur soi, comme vous venez d'en parler, accompagné par un instructeur. Mm-hmm. Et vous dites que la grâce ne suffit pas. Mm-hmm. Mais tout cela donc dépend, c'est aussi une affaire de temps, de patience et de persévérance. Enfin, on peut voir ça un peu comme ça. Et que penser dans un second temps du chemin de la foi ?
Qu'est-ce que veut dire la foi ?
La pratique.
Pratiquer des rituels. Les rituels sont des gestes, des attitudes qui nous sont parvenus à travers une tradition. Et on peut considérer que ces rituels ont une certaine puissance, entre guillemets, objective. Après, le rituel est une chose. Là encore, est-ce que la pratique ou l'observance d'un rituel suffit à profondément transformer une personne?
L'espérance ?
L'espérance, c'est un joli mot. Chacun peut espérer une transformation, espérer un salut, espérer une rédemption. Est-ce que l'espérance suffit ? Monsieur Gurdjieff parle très bien du fait que nombre de chrétiens croient en quelque chose, dont ont une espérance, mais en pratique ne savent pas comment incarner cette espérance, comment mettre en pratique les enseignements du Christ. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce que la foi ? Au sens ordinaire, c'est croire, par exemple, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité. Pourquoi pas ? De mon point de vue, la foi, c'est encore autre chose. C'est, comme l'a dit quelqu'un, la certitude, ou tout au moins le pressentiment intérieur très net, des choses invisibles, de certaines lois qui agissent en nous et autour de nous. Et donc, la foi, ultimement, c'est le fait d'orienter toute sa vie, toute son existence autour de l'axe de cette intention de transformation, de maturation. Et ça, c'est effectivement ce qui est de l'ordre de la foi, ce dont la vie de certains mystiques témoigne effectivement. La conversion dont il témoigne n'a pas été seulement le fait d'adopter une religion, ou de se faire baptiser, ou d'adhérer à une religion, ou à une forme ou une autre de pratique. Ça a été avant tout une réorganisation de toutes leurs énergies dans le but de cette ouverture au plus grand, de cette ouverture à ce qui nous dépasse et aussi du service de ce qui nous dépasse.